à toutes et à tous et bienvenue dans Rencontre, 30 minutes de discussion, de partage, d'échange sur Radio G, 101.5 FM, radio-g.fr et même en DAB+. Aujourd'hui, premier épisode de Rencontre avec Cécile Doyle. Bonjour Cécile.
Bonjour Nicolas.
Comment ça va?
Ça va bien, très contente de t'avoir avec moi.
Merci beaucoup d'avoir accepté d'être la première invitée de Rencontre. Alors Cécile, tu es thésarde et tu as écrit ta thèse sur le glioblastome.
Oui, tout à fait.
On va en parler justement de cette thèse et du glioblastome, ce mot un petit peu, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais avant de nous présenter ce que c'est, eh bien, je te laisse nous présenter le lieu dans lequel tu as choisi de me recevoir aujourd'hui.
Ok, alors aujourd'hui donc, on est dans le laboratoire au CHU, donc au Centre Hospitalo-Universitaire d'Angers, là où je travaille, où je fais donc des expériences scientifique, et là on est posé sur une paillasse, donc c'est une table sur laquelle on pratique des expériences scientifiques.
On est entouré de matériel scientifique, centrifugeuse, c'est le seul mot que j'ai retenu.
Il y a un vortex juste à côté, c'est écrit dessus.
Et puis de produits dangereux aussi, hein, avec des petites têtes de mort.
Ça ne risque rien.
Alors pourquoi avoir choisi ce lieu? Parce que alors, c'est ton lieu de travail, hein, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait choisir ce lieu en particulier? Parce qu'on aurait pu se voir n'importe où.
Je trouvais que c'était plus sympa pour se mettre dans l'ambiance. Ça permet aussi de te faire découvrir en même temps le lieu où je travaille. Et puis, praticité, il n'y avait personne.
Oui, parce que j'ai eu la chance, avant de démarrer cette interview, de faire un petit tour dans les labos, de découvrir un petit peu ton environnement de travail. Alors, Cécile, question ardue. Est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est le glioblastome?
Oui. Alors, le glioblastome, c'est un cancer du cerveau. Les cancers du cerveau donc, sont classés suivant plusieurs grades en fonction de la gravité du cancer. Et donc, ça va du grade 1 à 4. Donc, le glioblastome, c'est un cancer, donc une tumeur cérébrale de grade 4, donc le stade le plus grave. Et en fait, ça s'appelle glioblastome, c'est parce que dedans, il y a glio, qui vient en fait des cellules gliales. Et en gros, c'est la matière qu'on appellerait la matière blanche du cerveau. En fait, c'est ces cellules qui composent cette matière blanche qui dégénèrent et deviennent cancéreuses.
C'est un cancer du cerveau, le glioblastome, si j'ai bien compris.
Ouais.
Au plus haut niveau. Mm-hmm. Donc, normalement, c'est pas quelque chose de lequel on guérit, en tout cas pas encore.
Non, en fait, c'est un cancer qui va entraîner systématiquement des rechutes. C'est-à-dire que même si on arrive à faire un traitement avec, par exemple, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, les patients vont rechuter systématiquement. Donc, au bout de durée variable. Actuellement, la moyenne de survie, en fait, pour ce cancer, elle est de 15 mois après diagnostic. Donc, c'est un pronostic assez effroyable.
C'est peu, un an et demi à peine. Et donc, toi, ton travail, c'est de mener l'enquête un petit peu pour savoir comment guérir le glioblastome.
Oui, en fait, c'est mon sujet de thèse, en tout cas, je travaille sur les causes de résistance au traitement. Donc, en fait, le glioblastome, donc c'est une tumeur solide en fait. Donc, c'est une boule de cellules qui se forme dans le cerveau, qui du coup va perturber les fonctions cérébrales parce que en fait, c'est pas censé être là. Et en fait, au sein de cette boule de cellules, il y a des cellules qui vont, elles, être sensibles à la radiothérapie et la chimiothérapie. Ça veut dire qu'en fait, quand on va faire de la radio ou de la chimiothérapie, on va les tuer, on va réussir à les éliminer. Et il y a aussi des cellules qui sont un peu spéciales, qu'on appelle des cellules souches de glioblastome, qui, elles, sont capables de résister à la radiothérapie et à la chimiothérapie, et qui sont aussi capables de régénérer la tumeur. C'est-à-dire qu'en fait, si on a détruit la tumeur, donc par exemple, si on l'a retirée, qu'on a fait de la radio et de la chimiothérapie, qu'on a tué toutes les autres cellules, ces cellules-là, elles restent, elles survivent, et elles se retransforment en toute la tumeur. Donc, elles recréent la tumeur. Et c'est ça qui fait que les patients rechutent. Voilà. Et donc, moi, je travaille sur les causes de résistance de ces cellules-là en particulier. Pourquoi est-ce qu'elles résistent à la radiothérapie, à la chimiothérapie? Et on essaye aussi de trouver des molécules qui sont actives sur ces cellules. J'espère que c'était clair.
C'est un gros, gros sujet, et puis un sujet important.
Oui.
Parce qu'on parle de la survie d'une partie de l'humanité qui pourrait attraper ce type de cancer. Pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler sur le glioblastome?
Alors, en fait, j'ai travaillé sur le cancer déjà avant ma thèse.
D'accord.
Donc avant, j'étais ingénieure et du coup, mon premier travail, en tout cas, je ne travaillais pas sur le cancer. Et ensuite, j'avais vraiment depuis toujours envie de travailler sur le cancer. Et j'ai eu un autre laboratoire où j'ai travaillé sur la leucémie, donc lymphoïde chronique. Donc il y a une forme de leucémie qui atteint plutôt les personnes après 50 ans. Et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait sur ce cancer-là. J'ai aussi travaillé, pareil, sur les causes de résistance au traitement. Et après, je voulais faire une thèse pour pouvoir développer un projet de recherche vraiment à moi. Je voulais que ce soit en cancérologie et je voulais partir de Paris. Et donc, en fait, j'ai trouvé ce sujet de thèse, il m'a plu. Mon directeur de thèse a accepté du coup de m'encadrer et de proposer ma candidature à l'école doctorale. Et j'ai eu ma thèse, voilà, comme ça.
Un long chemin, on y reviendra tout à l'heure sur comment est-ce que on arrive à faire une thèse et tout ça. Et donc, en fait, c'est un peu un coup du hasard que tu arrives sur le glioblastome.
Oui.
Finalement, c'est un sujet qui te plaît.
Oui, c'est un sujet qui me plaît. Je connaissais quelqu'un dans mon ancien laboratoire qui avait travaillé sur le sujet et qui nous avait fait une présentation et j'avais trouvé ça très intéressant. Mais effectivement, c'est un peu du hasard. Voilà.
Et donc, tu n'es pas toute seule à travailler. Il y a donc ton directeur de thèse. Mm-hmm. C'est ça. Et vous êtes combien ici là, à travailler sur le glioblastome au sein du labo d'Angers?
Alors, dans mon laboratoire, on est trois actuellement. Avant, il y avait une autre thésarde en plus et quelqu'un d'autre encore. Mais ces personnes-là ont changé de sujet de recherche actuellement. Donc, on était cinq. Il y a eu un moment, on était sept même à travailler sur le glioblastome. Mais actuellement, on est trois.
Et depuis combien de temps, toi, tu travailles sur le glioblastome?
Ça va faire 3 ans bientôt, dans 15 jours. Voilà.
Et tu ne t'en lasses pas?
Non, ça c'est bien.
Alors, comment on travaille sur un sujet de recherche comme ça? Parce que c'est compliqué, on parle de maladies, on parle de cellules souches. Mm-hmm. Comment est-ce que tu travailles là-dessus? Comment est-ce qu'on mène des recherches mm-hmm. pour guérir du glioblastome?
Alors, déjà, une première chose, c'est qu'au début d'une thèse ou d'un travail scientifique de façon générale, on va se renseigner sur ce qui existe déjà. Donc on fait en fait ce qu'on appelle une revue de la littérature. Donc en fait on regarde tous les articles scientifiques, enfin pas tous parce qu'il y en a vraiment beaucoup.
Sur le glioblastome il y en a vraiment beaucoup.
Sur le glioblastome il y en a énormément. J'ai pas lu tous les articles scientifiques sur le glioblastome, c'est impossible. Et en fait on essaye de lire des articles qui parlent de notre sujet pour voir déjà ce que d'autres scientifiques ont fait, ce qui a déjà été montré, et ça permet aussi d'orienter notre travail de recherche. C'est-à-dire que si on trouve qu'un scientifique a déjà montré qu'il y avait cette voie de résistance, on peut travailler plus dessus. On peut approfondir la recherche qui a déjà été faite. Donc ça permet déjà de savoir ce qui a été fait et aussi de ne pas refaire exactement les mêmes choses, ça n'a pas d'intérêt. Donc on commence comme ça. Et après, je dirais que la première étape à un travail scientifique donc sur une maladie, ça va être d'avoir un modèle qui permette de travailler sur la maladie. Donc en gros, qui permet de faire des expériences dessus. Donc ça peut être récupérer des cellules de patients et travailler à partir des cellules de patients, mais ça peut être aussi de développer des modèles in vitro, enfin des choses qu'on recrée en laboratoire pour imiter la maladie. Je sais pas si ça va, si c'est clair pour toi.
Si. C'est hyper intéressant. Ça veut dire que j'allais dire, tu joues un petit peu en fait avec les petites cellules pour comprendre comment elles s'activent, comment elles réagissent
oui.
à différents produits.
Oui, globalement c'est ça. Voilà. j'ai des petites cellules de glioblastome que j'entretiens, que je cultive, on va dire, je leur mets des nutriments, etc. Elles poussent et après je mets des molécules dessus et je regarde si elles meurent,
si elles survivent,
si elles sont stressées, si elles survivent, pourquoi est-ce qu'elles survivent, etc.
Si elles sont stressées.
Oui.
Ça peut stresser une cellule.
Oui, ça peut stresser une cellule.
D'accord. Et donc, en fait, tu passes ta vie dans le laboratoire dans lequel on est, là, un petit peu?
Oui, c'est ça, tout à fait.
Et puis dans les labos d'à côté?
Tout à fait, oui.
Avec tes cellules, à observer?
C'est ça. En fait, on a un laboratoire où on cultive donc, les cellules de glioblastome, qui est assez sécurisé, donc on ne peut pas y rentrer comme on veut, parce qu'en fait, c'est un laboratoire de niveau 2, donc ça veut dire que le niveau de sécurité est de 2, parce que c'est des cellules humaines cancéreuses, donc potentiellement dangereuses, donc c'est un peu enfermé. Mais après, donc, dans ce laboratoire-là, je fais tout ce qui est sur les cellules vivantes. Et une fois que les cellules sont mortes, donc par exemple, si je veux récupérer ce qu'il y a dedans pour analyser l'intérieur de la cellule, bah, je sors et je viens dans ce laboratoire-là.
Pour
où
du
on
coup,
est actuellement.
Analyser.
Voilà. Qu'est-ce que les cellules activent, par exemple, quand elles sont stressées? Est-ce qu'elles sont. Enfin, voilà. Des petites choses comme ça.
Voilà. Un travail hyper, hyper intéressant. Tu analyses des cellules, tu passes ton temps, tu lis, etc. Mm-hmm. À la fin. De ta thèse, donc ta thèse elle sera aussi lue par,
oui.
par les autres.
Oui, tout à fait. En fait, je fais des expériences et en fonction de ces résultats-là, si j'ai des résultats intéressants, je vais publier des articles scientifiques donc qui vont être en anglais et qui vont être accessibles à toute la communauté scientifique. Mais avant d'être publiés, ces articles ils vont être relus par des pairs, donc c'est-à-dire par d'autres chercheurs, d'autres scientifiques, qui vont regarder si le travail est de qualité, si j'ai bien fait, si j'ai travaillé de façon correcte.
Ils vont refaire les mêmes expériences?
Alors, en théorie, quand on publie un article scientifique, on doit émettre assez de détails pour que quelqu'un puisse refaire la même expérience.
D'accord.
En pratique, les personnes qui relisent l'article ne vont pas refaire les expériences parce que c'est beaucoup trop de travail.
Par contre, ils vont aller vérifier si ta manière de faire fonctionne.
Oui, c'est ça. En fait, ils vont vérifier si j'ai bien fait les expériences de la bonne façon. Donc, par exemple, si on a des contrôles positifs et des contrôles négatifs, est-ce que j'ai les bons contrôles? Des choses comme ça, voilà. Et vérifier aussi si le travail est intéressant, si les résultats qu'on a sont vraiment, on va dire, pertinents. Et savoir si on peut publier ou pas. Donc, c'est une fois que ces personnes-là ont dit qu'on pouvait publier, à ce moment-là, on publie les articles. Donc, ça, c'est une partie de mon travail de thèse. Donc, je vais avoir des articles publiés.
Et à la fin. T'en as beaucoup actuellement ? T'en as déjà publié actuellement ?
Oui, j'en ai publié un. Et il y en a deux en cours d'écriture.
Voilà. D'accord.
C'est un gros travail.
<m'étonne>.
Voilà. Parce que, en fait, il faut à la fois regrouper toutes les données qu'on a collectées pendant, par exemple, un an et demi, voire plus, les mettre en forme et écrire aussi un article, qui soit bien écrit, quoi. C'est en anglais et il faut que ce soit écrit d'une façon scientifique.
Tu es bilingue, donc ?
Oui.
On ne fera pas la suite de cette interview en anglais.
Are you sure ?
Yes, hein. Alors Cécile, on va marquer une pause musicale et tu as choisi pour nous une musique. Je te laisse nous la présenter et nous expliquer pourquoi tu l'as choisie.
Oui, alors j'ai choisi Hold On de Ren. Ren, c'est un rappeur que j'aime beaucoup, qui se bat contre une maladie aussi, qui n'est pas un cancer, qui est la maladie de Lyme. Et il fait beaucoup de chansons à la fois sur la santé mentale et sur sa santé tout court, enfin sur le fait que il se bat pour ça. Et cette chanson Hold On, c'est tiens le coup. En fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui galère dans la vie et qui a beaucoup de difficultés et voilà, mais qui tient. Enfin, en fait, il faut tenir le coup, quoi. Et voilà, je trouve que ça me correspond assez bien et ça correspond bien aussi à la recherche de façon générale, c'est-à-dire que c'est dur, on galère, mais il faut tenir le coup. Voilà,
on écoute ça tout de suite et on revient juste après.
I got tears on my sleeves, hold on. And holes in these jeans, hold on. I haven't slept in weeks, hold on. I haven't found no peace, hold on. I get mighty tired, hold on. And these tears run dry, hold on. Two bloodshot eyes, hold on. Two bloodshot eyes. I don't belong here, in a place where life has left me. I'm 25 going on 150. My body feels old and I'm trying to lift the weight from my soul, but it's moving against me. I've emptied out my tear ducts, I lift my middle finger up, I'm screaming fuck you to all the demons here that keep me stuck. The pain is sharp like paper cuts, I hate too much. But yes, I trust the Moscow boss, the must blow up. I must have all this courage up. Boom, sparks fill the room, I'm feeling the rhythm I move. My soul is more worn than the soles in my shoes. Nike trainer blues, a man with none to lose. I think I lost my sanity, calamity in shoes. Poor choice maker, I'll rip out the pages of fate. Then I roll them up like bizzle of paper. Lung full of destiny, a man with no part. It's a very strange entity. Tears on my sleeves, hold on. And holes in these jeans, hold on. I haven't slept in weeks, hold on. I haven't found no peace, hold on. I get mighty tired, hold on. And these tears run dry, hold on. Two bloodshot eyes, hold on. Two bloodshot eyes. Do you ever question your fate? The questions I make, is this all predetermined? The script or a play? Am I the protagonist in this tragedy? Or will I be the author of stories unmade? If so, I'll dip in my quill to my ink pot. Keep on writing, never stop until my beating heart it flops. I write a whole different story. Scene one, a boy full of hope, a boy full of glory. Who stutters, I'm up to the top. Would rather be tougher and live it smoothly like butter. And not so bitter from cut up. And so I sit up and shut up. It's like I lit up and struck up the courage. Never the fuck up. And now I'm feeling the ruckus, feeling the static. And now I'm feeling the flames. And now I'm feeling the strength inside the ring with my pain. My boxing gloves and my hope that I trust to bust an uppercut. Cut my demons up. What? Boom like a tsunami, smooth like a punani. Bender birds like Korpagami, Salvador, I be the Dali. Only love like Bob Marley, golden ticket, call me Charlie. Riding Harley's Bengali, tiger style, call me Arnie.
I'll be back.
And I cut the slack, track your facts, relax your inner beast. And then seek your inner peace. And I'll reach the canopies. And yes, we climbing, building a brave new world inside a whole new design. And
with all this fire, we burn like the sun. A new dawn is rising, a new dawn it comes.
Yeah, diggity diggity down with all this corporation. They burn up the land for the greed that they run. Runs deep with their roots, but their roots can be lifted. I'll be your renegade, yes, I make a fist kid. Try to seek truth in the kingdom of lies. A boy so lost with two bloodshot eyes. Tears on my sleeves, hold on. And holes in these jeans, hold on. I haven't slept in weeks, hold on. I haven't found no peace, hold on. I get mighty tired.
bloodshot eyes. Hold on, two bloodshot eyes.
Rencontre sur Radio G 101.5 FM.
Je suis toujours en compagnie de Cécile Doual dans un des laboratoires de recherche de l'Université d'Angers pour parler de sa thèse sur le glioblastome. Merci beaucoup, Cécile, pour ce partage musical. Alors justement, Cécile, ta thèse, elle est aujourd'hui financée par une association sur le glioblastome. Est-ce que tu peux nous la présenter ?
Tout à fait. Alors déjà, il faut savoir qu'une thèse, c'est 3 ans et qu'au début, ma thèse a été financée par l'Université d'Angers.
D'accord.
Donc déjà, première chose, c'est eux qui ont financé le gros de ma thèse quand même. Et donc plus particulièrement par l'école doctorale de biologie et de santé. Et là, en fait, j'arrivais à la fin de ma thèse, donc à la fin des 3 ans, mais j'avais pas fini mes recherches et c'était vraiment dommage de m'arrêter là parce que, en fait, au bout de 3 ans, on commence à avoir les résultats qui sont intéressants et on avait des pistes qui s'ouvraient et que je pouvais pas, je pouvais pas finaliser mes recherches dessus parce que j'avais fini ma thèse et donc j'ai fait des demandes de prolongation pour avoir une 4e année. La plupart ont été refusées et dans un dernier espoir, j'ai adressé une bouteille à la mer, on va dire, et c'est un peu drôle de dire ça parce que à une association qui s'appelle Des Étoiles dans la Mer, justement. Donc oui, l'association s'appelle Des Étoiles dans la Mer, vaincre le glioblastome. Donc c'est une association qui est basée à Montpellier et en fait ils financent à la fois de la recherche scientifique, mais ils financent aussi, par exemple, ça peut être du matériel pour des équipes de, enfin, des hôpitaux, donc qui vont en avoir besoin pour les patients en glioblastome. Et ils apportent aussi beaucoup de soutien aux familles de patients et aux patients en eux-mêmes. Donc ils ont aussi, je sais que c'est un gros réseau aussi d'écoute pour les familles de patients, parce que c'est une maladie qui est malheureusement très difficile pour l'entourage et les patients eux-mêmes. Voilà.
Donc c'est une association qui finance et soutient les familles, finance la recherche.
Tout à fait.
Et donc ils t'ont répondu, oui. Ils ont accepté de te financer.
Oui.
Pour 6 mois, tu l'as dit, c'est ça ?
C'est ça, exactement.
Pour 6 mois. Donc là, tu as encore 6 mois pour pouvoir mener des recherches.
Oui.
Et leur rendre des comptes pour pouvoir les aider.
Oui, exactement. En fait, du coup, j'ai 6 mois de plus. Donc, il faut que je vais faire plus d'expérience encore. Et je vais effectivement leur rendre des comptes sur les résultats que j'aurai obtenus. Et le but, c'est aussi de... Enfin, vu qu'ils m'ont financé, que c'est une petite association qui commence à grandir, mais qui est encore une... peu connu, on va dire, par rapport à des grosses associations comme la Ligue contre le cancer, et qui est très spécialisée glioblastome. En fait, le but, c'est aussi... j'ai envie d'augmenter la visibilité de cette association-là. Donc, pourquoi pas faire des interventions dans la presse, etc. Notamment par rapport au financement qu'on a obtenu.
Comme là, actuellement. Ici, voilà. Actuellement, dans cette émission.
Voilà.
Ils te financent. Tu vas leur rendre un peu, en fait... des comptes, c'est un peu classique puisque c'est des financeurs.
Tout à fait.
Tu vas leur permettre peut-être d'avancer dans la recherche pour trouver peut-être un jour un espoir de guérison pour les malades du glioblastome.
C'est ça.
Question comme ça qui me vient parce que je parle d'espoir de guérison. Est-ce que tu penses du coup que ça peut un jour, on pourra guérir un jour du glioblastome ?
Je pense que... J'espère que c'est possible, on va dire. Il y a des patients qui sont, on va dire, survivants à long terme du glioblastome et qui sont assez rares, mais qui existent. Des personnes qui vont passer plus de 5 ans avec la tumeur, par exemple, et qui vont survivre. En général, c'est possible surtout pour les patients jeunes. Après, il y a vraiment beaucoup de recherches qui se font en ce moment et il y a plein de choses intéressantes. Donc moi, j'ai espoir qu'effectivement, parmi ces recherches, il y en a qui aboutissent à un traitement autre. Parce qu'actuellement, le traitement qu'on utilise sur les patients, c'est le même depuis très longtemps.
Il est temps que ça évolue.
Exactement.
Que ça change.
Voilà. Il est temps que ça évolue, que les patients aillent mieux. Mais c'est vrai que c'est un cancer très difficile.
J'aimerais qu'on vienne un petit peu en arrière, dans le passé ensemble. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, comment tu es arrivé à faire une thèse. Tu es ingénieur, tu as voulu travailler, tu as fait de la leucémie, etc. Mais tu es parti d'où à la base? Tu as commencé par quoi?
Au tout début de mes études?
Ouais.
Ok. du coup, j'ai fait un bac S et après j'ai fait une école d'ingénieur en biotechnologie qui s'appelle SUP Biotech, qui est localisée en région parisienne. Alors en fait, les 3 premières années sont générales, il n'y a pas d'options, etc. Et ensuite, moi, je savais que je voulais travailler dans la recherche et en santé. Donc, j'ai choisi un... Sur les deux dernières années, je me suis spécialisée vers un parcours donc recherche et développement et santé. Donc, j'ai eu des cours qui étaient plus orientés là-dessus. Et j'ai fait mon stage de fin d'études dans une start-up qui s'appelle Ifibio, qui est basée à Paris et qui travaille sur des anticorps thérapeutiques. Donc, c'est toujours dans le but de soigner, mais donc c'était pas forcément cancer. Il y avait cancer dans les thématiques, mais plein de choses. Donc, en fait, on développe des anticorps pour aider les gens à guérir. C'est une forme de médicament, si on peut dire. J'essaie de ne pas te perdre.
Je ne suis absolument pas perdue, je suis à ton écoute.
Et donc, j'ai fait mon stage de fin d'études là-bas. Et ensuite, ils m'ont embauchée, donc je suis restée un an et demi de plus. Et en fait, la recherche privée, c'était pas ce qui me plaisait le plus.
C'est quoi la différence du coup avec la recherche publique?
Alors du coup, bah, j'étais en entreprise, donc la recherche privée, elle va être financée plutôt par des investisseurs. Et le but, en fait, c'est d'avoir des médicaments et de les vendre.
Oui.
Et il y a vraiment un objectif de ce qui est
de résultats, de chiffres.
Voilà, c'est ça, de résultats. Et en fait, on a moins le temps de se poser des questions, pourquoi ça marche pas. Il y a vraiment cette notion de rentabilité derrière qui est assez importante. Et du coup, bah, on n'a pas vraiment le temps de creuser le sujet de recherche, tout ça. Et moi, en tant qu'ingénieur, j'ai trouvé que je ne pouvais pas assez réfléchir à ce que je faisais. C'est-à-dire que c'était un peu les investisseurs qui décidaient ce sur quoi on travaille. Et moi, des fois, je ne savais même pas sur quelle maladie je travaillais. Et c'était un peu frustrant pour moi.
D'accord. de travailler sur une maladie qu'on...
Bah, en fait, on travaille du coup sur le développement de médicaments, donc les anticorps, on peut appeler ça des médicaments. Mais on ne savait pas c'était quoi la maladie derrière, c'était quoi le raisonnement scientifique, pourquoi on voulait un anticorps contre cette cible en particulier. Donc c'était un peu frustrant pour moi.
D'accord.
Et du coup, après, j'ai fait un petit peu de chômage où je me suis demandé si j'allais pas complètement arrêter la recherche. Et au final, je suis tombée par hasard sur une offre de recherche dans un laboratoire public cette fois-ci, au centre de recherche des Cordeliers à Paris. Et ils proposaient un poste donc, qui me correspondait tout à fait au niveau des techniques, etc. Enfin, moi, je savais vraiment faire tout ce qu'ils demandaient. Et c'était cette fois-ci sur un cancer, donc la leucémie lymphoïde chronique. Et donc, j'y suis allée et j'ai été prise. Et j'ai adoré, en fait, faire de la recherche publique. Beaucoup plus que la recherche privée.
Tu m'étonnes.
Bah, pas forcément, parce qu'il y en a qui préfèrent la recherche privée, parce que c'est plus à appliquer, on va dire, c'est plus concret.
Ouais.
Mais moi, j'ai préféré pouvoir me poser des questions, avoir...
Le temps de chercher.
Voilà,
de...
c'est ça. Exactement.
D'effectuer des analyses, etc.
Ouais, bah, plus de temps, j'avais plus de visibilité sur ce que je faisais. Et en fait, je pense aussi que dans la recherche publique, on a plus de liberté. Là, actuellement, c'est vraiment le cas en thèse, encore plus. C'est que je peux décider, ce sujet-là, ça m'intéresse trop, j'ai envie de savoir, je suis sûre qu'il y a quelque chose à creuser, bah, je peux y aller. Alors que dans le privé, on ne peut pas forcément, parce que le but, c'est de rendre des comptes aux investisseurs. Voilà. Alors que nous, en recherche publique, le but, c'est d'augmenter la connaissance scientifique, d'arriver un jour à des médicaments potentiellement, mais on n'a pas cette pression de résultats. Enfin, on l'a quand même, mais pas de la même façon. Voilà. Je sais pas si c'est clair.
Oui, si, c'est très très clair depuis le départ. Ne t'inquiète pas. Donc, t'arrives dans ce poste sur la leucémie,
oui,
au Cordeliers à Paris, et à un moment donné, tu te dis, tiens, j'ai envie de faire une thèse.
Ouais. En fait, j'avais un poste qui était aussi beaucoup technique. Comme j'étais ingénieure, je m'occupais aussi de la gestion du laboratoire, les commandes, etc. Et j'avais pas encore assez de temps, je trouvais, pour moi, développer de la recherche vraiment, réfléchir à mon projet, me poser des questions. Et tous mes collègues me disaient tout le temps, mais Cécile, il faut que tu fasses une thèse, c'est du gâchis, fais une thèse. au début, je voulais pas du tout, et au fur et à mesure, j'y ai réfléchi. Et aussi, j'ai eu quelques missions d'enseignement quand j'étais au chômage, et j'ai beaucoup aimé. Et pour enseigner à la fac, il vous faut avoir une thèse. En tout cas, c'est mieux.
C'est un gros prérequis.
Voilà, c'est ça. Et donc, je me suis dit, en fait, c'est l'occasion, va faire une thèse. Comme ça, t'en profites, tu pars de Paris, tu fais ta thèse, et à l'après, tu pourras enseigner à la fac et avoir accès à des postes qui te plaisent potentiellement plus. Voilà. Donc,
Parce que donc, là, ici, toi, tu fais pas d'enseignement.
Alors, j'en ai fait.
T'en as fait ?
Oui.
T'en fais un petit peu, t'enseignes ?
Oui, j'en ai fait pendant ma thèse. Là, j'en fais pas en ce moment parce que c'est la fin de la thèse et qu'il faut que je me dépêche d'avoir des résultats, donc j'ai pas le temps d'enseigner en parallèle. Mais oui, en fait, je voulais enseigner en même temps que ma thèse, c'est possible. Et donc, j'ai au début, en fait, sur Angers, j'avais pas trouvé de poste. Donc, j'ai enseigné dans mon ancienne école d'ingénieur que j'ai contacté tout début de ma thèse en leur disant j'ai très envie d'enseigner, est-ce que vous avez des postes pour moi? Et donc, j'ai fait un peu de mission d'enseignement avec eux. Alors, du coup, je faisais les allers-retours à Paris, ce qui n'était pas évident, mais j'avais très envie d'enseigner, donc je l'ai fait quand même. Et après ça, comme j'avais déjà enseigné, j'ai eu beaucoup plus de facilité à trouver des postes dans la région. Et donc, j'ai enseigné aussi à l'UT d'Angers et à l'UT de Laval.
Okay.
Voilà, donc c'était très sympa. Donc j'ai plutôt enseigné ce qui était travaux pratiques. Donc c'est faire des TP avec les étudiants, un peu comme ce qu'on peut faire au lycée, mais en version un peu plus poussée, quoi.
Version étudiant d'IUT.
Voilà, c'est ça, un peu plus à des niveaux plus élevés. Et non, c'est très chouette, j'adore le contact avec les étudiants. Et...
C'est vers là où tu as envie de te diriger après?
Ouais.
Mais en ayant toujours un pied dans la recherche et dans le labo.
Ouais. Le but, c'est d'être enseignant-chercheur, donc, ou maître de conférence. Et en fait, on a une partie d'enseignement et une partie de recherche. Et en fait, on fait un peu des allers-retours entre les deux. C'est un peu compliqué parce que l'enseignement, ça peut être très chronophage. Et du coup, on n'a plus assez de temps pour la recherche. Mais bon, on verra. J'espère réussir à concilier les deux.
On voilà. Passe les doigts pour toi.
Oui.
Alors... Comment ça fonctionne un parcours de thésarde, un parcours de thèse? Mm-hmm. Il y a des étapes à franchir. Tu parlais d'articles tout à l'heure.
Ouais.
Il y a une thèse à rendre à la fin.
Oui. Gros
truc.
Tout à fait. Un gros truc, oui. Comme tu dis.
Mais comment ça fonctionne? C'est quoi les étapes un peu d'une thèse?
Alors, du coup, bah. Une thèse, déjà, il faut être financé pour une thèse, donc il faut avoir un financement pour 3 ans. Quand je dis un financement, ça veut dire en fait, c'est on finance ton salaire, c'est de l'argent pour te payer toi.
C'est pas de l'argent qui va payer tes outils de recherche,
non.
Qui va payer, c'est vraiment de l'argent qui va te payer toi.
Déjà, il faut de l'argent pour te payer toi. Il faut de l'argent aussi pour payer tes outils de recherche, ça c'est bien, c'est un bonus. C'est même mieux, d'ailleurs, c'est très recommandé. Mais il faut de l'argent pour te payer toi, sinon tu peux pas faire une thèse.
D'accord.
Donc une thèse, ça dure 3 ans. Le financement il est défini par la loi, hein, donc voilà. Et donc ça dure 3 ans. Donc déjà pour ça, soit on a une thèse avec un financement extérieur, donc ça peut être une association de recherche, enfin par exemple la Ligue contre le cancer, des choses comme ça.
Ou celle qui te finance actuellement.
Oui, voilà, exactement. Soit ça peut être un financement par l'Université d'Angers. Donc c'est sur concours en fait, et on a des places. Enfin, en fonction de notre classement, on est financé ou pas.
D'accord.
Donc ça. Ensuite, pendant la thèse, le prérequis, ça va être tous les ans, on a ce qu'on appelle un comité de suivi individuel de thèse qui va évaluer le travail et qui va dire si ça se passe bien. Enfin, il va regarder si ça se passe bien et il va dire si on peut se réinscrire pour l'année d'après. Normalement, c'est quasiment toujours oui. Et à la fin de la thèse, donc au bout des 3 ans, pour pouvoir soutenir, il faut avoir rédigé un article scientifique qui a été publié, donc accepté dans un journal. Et il faut aussi donc écrire une thèse qui fait environ, on va dire, entre 150 et 300 pages. Voilà, où on présente une introduction sur le sujet et les résultats qu'on a obtenus pendant la thèse. Et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, ce n'est pas fini. Il faut soutenir sa thèse. Donc là, c'est une présentation de 45 minutes devant un jury, donc des scientifiques qu'on a choisi parce qu'ils sont experts dans le domaine, qui vont juger le travail qui a été effectué, qui vont poser des questions aussi à la fin. Donc il y a 45 minutes de présentation et les questions, ça peut durer 2 heures. Et suite à ça, une fois qu'on a présenté et qu'on a donc répondu aux questions, on a le diplôme de doctorat.
Voilà. Ça n'a pas une influence en fait, cette soutenance. Ils vont pas te dire tu l'as pas.
Normalement, si on a l'autorisation de soutenir, c'est qu'on va avoir la thèse. Parce qu'on a déjà rendu le rapport, enfin le
Oui, ils ont déjà lu ton dossier.
Voilà, exactement. Normalement, c'est bon. Okay. Voilà. Et à la fin de cette soutenance, on fait. C'est un peu comme. On a un serment à lire. Voilà, on prête serment de respecter l'éthique de la recherche, etc. Voilà. Donc, c'est très formel. C'est un beau moment au final, je pense. On a hâte d'y être.
Et alors, justement, toi, t'en es où? L'article scientifique, c'est fait?
Oui.
La thèse, il te reste 6 mois pour l'écrire, c'est ça?
La thèse, du coup, j'ai écrit l'introduction, donc la revue de la littérature, etc. Après, moi, je fais une thèse sur article, donc ça veut dire qu'en fait, je vais avoir mon introduction et dedans, je vais mettre directement les articles que j'aurai publiés.
D'accord.
Et donc, j'en ai 2 autres qui sont en cours d'écriture, donc à la fin, j'aurai une thèse avec 3 articles dedans, ce qui est quand même pas mal. Ce sera une belle thèse, je pense. Enfin, j'espère.
Et puis après, une belle soutenance.
Voilà. Exactement.
On te souhaite le meilleur.
Merci.
Alors on en arrive à la fin de cette interview, fin de ce premier épisode de Rencontre. Merci beaucoup Cécile Doyle d'avoir répondu à mes questions. Pour terminer, je voulais te demander quels seraient les conseils que tu donnerais à des personnes qui voudraient se lancer dans l'écriture d'une thèse.
Alors, l'écrire c'est une chose, mais déjà la faire c'est, c'est un boulot. Je pense qu'il faut être persévérant et il faut être très motivé parce que 3 ans c'est à la fois court et long. Si le sujet ne nous plaît pas, c'est vraiment, ça peut être un peu une torture. Et je pense qu'il faut bien choisir aussi son équipe encadrante et l'équipe dans laquelle on